Bienvenue dans Être soi au féminin, le podcast pour les femmes qui osent se réinventer pour enfin s'assumer dans toute leur singularité et leur puissance. Je suis Elisabeth Souriau, j'accompagne les femmes sur leur chemin de transformation alchimique, de l'ombre à la lumière, pour réveiller leur nature authentique à partir de leur créativité naturelle. Ce chemin de reconnexion, je le marche depuis près de 30 ans. Il m'a permis d'explorer plusieurs approches, jusqu'à sentir ce qui me fait le plus vibrer et qui est au cœur de toutes mes propositions. L'art-thérapie et les approches créatives au sens large. Deux fois par mois, je te partage des réflexions, des pistes d'exploration et des outils concrets pour t'accompagner sur ce chemin de révélation de ton trésor intérieur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je t'emmène en voyage au pays des loyautés et des déloyautés. C'est assez stupéfiant de voir à quel point cette question de loyauté revient dans quasiment tous les domaines de notre vie. Comment elle peut venir irriguer chaque relation, chaque interaction et de très nombreux de nos comportements. Évidemment, en creux, vers la question de la déloyauté. Qu'il s'agisse de nos modes de vie, de nos relations avec notre famille, avec nos enfants, avec notre partenaire, de ce qui est valorisé et autorisé, et de ce qui est au contraire interdit et déprécié. Tout ce qui va tourner autour des études, de la vie professionnelle, de l'argent, de la réussite. Quoi que ce soit que tu mettes derrière le mot réussite, et encore une fois, c'est des critères qui vont être définis par le groupe en question. Et on parle aussi d'opinion politique, de culture, de religion, et tellement, tellement d'autres choses. J'en passe et des meilleures. Alors, cette dualité, loyauté, déloyauté, c'est quelque chose que j'ai beaucoup interrogé dans mon parcours personnel, et puis maintenant avec mes clientes. C'est évidemment pas pour rien que je me suis intéressée et formée à la psychogénéalogie. Et ben, je constate qu'en fait, elle est jamais très très loin sous la surface et qu'elle peut vraiment polluer la vie et nous tirer en arrière si on n'en prend pas conscience et si on n'arrive pas à y porter un nouveau regard. Alors c'est à cela que je t'invite. D'abord, à aller regarder ce qu'il y a derrière cette notion de loyauté. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière? Comment chaque groupe, chaque famille, chaque relation va créer ses propres règles. Et comment ces règles, eh bien, elles définissent les critères de la loyauté, mais aussi d'une future potentielle déloyauté à venir. Et pour finir, je voudrais t'inviter à changer de regard en revenant à toi-même et en te demandant si finalement la première déloyauté, ça n'était pas d'être d'abord et avant tout loyal à toi-même. Je te souhaite une très bonne écoute, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est la loyauté? Pour commencer, je vais te lire un extrait d'un texte de Delphine de Vigan, dans son roman qui s'appelle justement Les loyautés. Les loyautés, ce sont des liens invisibles qui nous rattachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho. Des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes. Des mots d'ordre admis sans les avoir entendus. Des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps. Les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit. Les fondements qui nous permettent de résister. Les principes invisibles qui nous rongent et nous enferment. Nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. Voilà. Quasiment tout y est, tout est dit. Je pourrais presque arrêter l'épisode ici. La loyauté, c'est un peu comme un pacte, comme un contrat, plus ou moins conscient, qui est passé entre les membres d'un groupe, d'un système. Et je parlerai plus tard de ce que c'est qu'un groupe. Qui dit contrat dit règle, et aussi respect des règles. Donc être loyal, c'est respecter les termes du contrat. La loyauté, elle nous parle d'engagement, de fidélité et d'appartenance. J'intègre et je respecte les règles du groupe auquel j'appartiens, qu'il s'agisse de ma famille, d'une entreprise, quel que soit le niveau. Je lui prouve ainsi ma loyauté, ma fidélité, et en retour, j'ai une place dans ce groupe, ma place. La loyauté, donc, elle nous parle aussi potentiellement de reproduction, puisqu'il s'agit de se conformer à un certain schéma, même si, évidemment, certaines nuances peuvent être admises ici et là. Et si je ne respecte pas ces règles, je romps le contrat et je sors du système. Je m'en exclus moi-même, ou alors les autres s'en chargeront à ma place. Le groupe, c'est d'abord et avant tout la famille, au sens large. L'arbre généalogique, qui inclut les vivants comme les morts, les personnes qui nous sont totalement inconnues, tout autant que nos plus proches, nos plus intimes. Mais le groupe, ça peut aussi être un sous-groupe, un duo, un trio. Par exemple, la relation parent-enfant, une relation mère-fille, mère-fils, le couple en lui-même. Le groupe, ça peut aussi être les relations amicales, l'entreprise au sens large, une relation hiérarchique. Un pays, parfois plusieurs pays pour ceux qui ont quitté leur pays d'origine, avec souvent une tension qu'on va retrouver entre terre d'accueil, terre natale, et tout ce que ça va impliquer en termes d'évolution, de changement sur les repères, les modes de vie. Alors, en fait, il n'y a pas de standard pour ce qui est des règles. Chaque groupe va créer les siennes propres, en fonction de son histoire, de ses propres loyautés antérieures, de ses valeurs. Donc la loyauté et la déloyauté, elles viennent se tisser à partir de critères propres, à chaque famille, chaque personne. Et c'est comme ça qu'on va avoir des générations de médecins, des générations de professeurs, des familles de gauche ou des familles de droite, si tant est que ça ait encore un sens. Alors, ça peut être un vrai choix conscient dans certains cas. Mais ça peut aussi être une forme de loyauté. Et parfois, il peut y avoir un peu des deux. Et tout choix différent va être vécu comme une vraie rupture, une espèce de trahison. Quand j'étais étudiante, j'ai fait 2 de mes 3 stages dans l'automobile. Et j'y ai trouvé mon premier emploi. Mais en fait, je ne l'ai jamais vraiment choisi. Ces stages, cet emploi, ils sont venus à moi, d'une certaine façon, et c'était vraiment pas le secteur dans lequel j'aurais souhaité évoluer, mais alors très loin. Mais par contre, c'est l'univers dans lequel quasiment toute ma famille a évolué, toute ma famille a travaillé. Mon grand-père paternel, qui a même, d'après l'histoire familiale, créé un des tout premiers garages quand la voiture a commencé à se développer. Mon père, 3 de mes oncles. Et plus tard, ma mère. Et ensuite, moi. Alors, à l'époque, ça ne m'a pas échappé. Mais j'avais pas vraiment conscience que ça pouvait être une forme de loyauté. J'y voyais une répétition, mais je voyais pas tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. C'est après que ça m'est apparu. Ensuite, j'ai quitté ce domaine, et je pense que j'ai bouclé une boucle à ce moment-là. Et je t'en parlerai un peu plus tard. La répétition, elle peut être plus subtile. Un enfant, il peut s'interdire de faire mieux que ses parents. Mieux dans ses études, mieux dans la carrière qu'il va construire, mieux dans sa vie amoureuse. Parce que gagner beaucoup d'argent, créer une relation de couple qui va être durable et harmonieuse, ça peut aussi être vécu comme une forme de déloyauté. Une fille, par exemple, qui a vu sa mère malheureuse dans son couple, peut très bien consacrer toute son énergie à sa carrière professionnelle, et se désinvestir de toute relation pour ne... Alors, on peut se dire que c'est parce qu'elle a eu cet exemple de sa mère malheureuse et qu'elle n'a pas envie de reproduire, mais elle peut aussi s'interdire de prendre le risque de réussir là où sa mère a échoué. Je mets évidemment des guillemets à réussir et à échouer, mais je pense que tu comprends l'état d'esprit. Alors, ce terme de loyauté, en fait, il est toujours présenté comme une qualité, comme une vertu. Et donc très valorisé. D'où, de l'autre côté, le revers de la médaille, d'où ce sentiment de déloyauté, de trahison, quand j'agis, quand je pense différemment, à partir de mes propres règles, et que je romps avec l'équilibre qui était créé jusqu'ici. Du coup, c'est quoi être déloyal? Eh bien, je me sens déloyal, ou les autres vont me trouver déloyal, quand je m'éloigne trop de mon groupe, quand je ne respecte plus les règles de base qui ont été fixées. D'une certaine manière, c'est comme si je m'excluais. Je prenais tellement de recul que j'en arrive à une forme de rupture, plus ou moins radicale, et qui va générer une forme de malaise. Un mélange vraiment complexe entre culpabilité, honte, tristesse, colère, même s'il peut y avoir beaucoup de fierté, parce que je sais que je suis mon propre chemin, que c'est parfaitement juste et que je le fais pour moi. Mais c'est un peu comme si je laissais les autres en arrière. Je peux avoir la sensation d'être infidèle, de les trahir, peut-être aussi de moins les aimer parce que je commence à me sentir différente. Et donc de me trahir moi-même d'une certaine façon, de trahir de là où je viens. Quoi que ce soit derrière de là où je viens. C'est un peu comme si j'avais besoin de m'ajuster à un nouveau standard, de trouver un équilibre et de m'aligner à des nouvelles règles que je vais fixer moi-même. C'est moi qui les choisis et je me construis d'une certaine manière une nouvelle identité, je trouve un nouvel alignement. Et ça peut être parfois un très très long chemin. Tant on peut osciller entre les deux et parfois se sentir tiré en arrière. Alors, je parle pas d'une déloyauté qui va être en mode rébellion, du genre ouais, mais de toute façon, je fais ce que je veux, allez tous vous faire voir, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça, parce que dans ce cas-là, je pense que la loyauté, c'est pas le sujet. En tout cas, c'est pas le sujet de la personne qui réagit comme ça sur le moment. Par contre, ça peut l'être pour les autres. Ça peut être pour le reste de la famille, par exemple, qui va se sentir renié, rejeté, qui va souvent rien y comprendre, qui va bien se demander ce qu'elle a bien pu faire pour en arriver là. Et ça va être d'autant plus fort que je vais m'affirmer avec violence et que le rejet va être brutal. Pourtant, je ne suis pas certaine, même dans ce cas-là, qu'on puisse vraiment faire l'économie à un moment ou à un autre de cette question et de la culpabilité potentielle qui va venir avec. Une de mes anciennes collègues qui vit à Paris retourne régulièrement voir ses parents, qui eux sont dans le sud. Et dans une conversation, elle me disait que, en fait, elle ne leur parle jamais vraiment de sa vie, jamais en profondeur, tout simplement parce qu'elle sait qu'ils ne comprendraient pas. Elle a un très bon salaire, elle sort beaucoup, elle a des fréquentations qui n'ont rien à voir avec le milieu dont elle vient. Et en fait, c'est un peu comme si elle avait changé de monde. Et du coup, créer une sorte de barrière. Alors, en fait, je ressens aucune culpabilité de sa part. Pour elle, c'est pas le sujet. Par contre, il y a quand même une forme de fidélité, puisqu'elle s'interdit de montrer ouvertement à quel point elle a changé, à quel point sa vie a changé, et n'a plus rien à voir avec celle de ses parents. D'ailleurs, Annie Ernaux, Édouard Louis, ils ont beaucoup écrit sur ce sentiment d'être des transfuges. Eux, ils parlent de transfuges de classe. Et le mot transfuge, il est vraiment hyper fort. Être un transfuge, c'est trahir une cause et passer à l'ennemi. C'est vraiment pas rien et ça dit bien toute la charge, toute l'émotion, l'émotionnel qui peut y avoir derrière ce ressenti de déloyauté, d'un côté comme de l'autre, de celui qui trahit, entre guillemets, et de ceux qui se sentent trahis. Personnellement, je me rappelle, j'ai fait acte de déloyauté à un moment dans ma vie professionnelle. Je travaillais dans une petite entité d'un groupe automobile qui allait fermer. Et le DRH m'a fait comprendre que j'allais payer très très cher mon positionnement parce que j'ai participé, moi, salarié cadre, à une réunion d'information et de revendication qui était initiée par des salariés non cadres. Et là, clairement, j'étais pas à ma place. J'ai soutenu mes collègues et d'une certaine manière, j'ai trahi l'entreprise. En tout cas, on me l'a vraiment fait ressentir comme ça et on m'a dit que je ne serais pas reclassée dans le groupe. Alors, c'était à mon plus grand bonheur puisque justement, j'avais choisi, moi, de ne pas rester, de ne pas accepter une proposition de reclassement et de boucler cette boucle de l'automobile dont je te parlais tout à l'heure. Mais quand même, il y a vraiment voilà, quand on est cadre, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Et pour moi, alors je ne dirais pas que c'était un engagement de soutenir mes collègues, mais pour moi, on était tous dans le même bateau. L'entité allait fermer, il allait y avoir un certain nombre de personnes qui allaient vraiment se retrouver en difficulté. Et pour moi, c'était normal d'être à leur côté. C'était pas un acte de revendication, mais je pense que ça a été perçu comme tel en tout cas. Pour moi, c'était juste, je m'incluais dans un groupe et à ce moment-là, le fait d'être cadre ou pas cadre, ça n'avait mais strictement aucune importance pour moi. Pour finir, j'ai envie de t'inviter à sortir de cette dualité loyauté, déloyauté, d'une certaine manière, dualité entre le bien et le mal, et à changer de regard sur ce que devrait être la loyauté et de ce que pourrait être la déloyauté. En fait, on l'a vu, beaucoup de nos loyautés proviennent de notre famille, de notre généalogie, et une bonne part peut rester totalement inconsciente, en fait. C'est un peu comme si on avait absorbé tout ça au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, on soit amené à les remettre en cause. Tout simplement parce qu'on évolue, que notre réalité change et que nos choix changent. Et là, eh bien, on est amené à se poser cette question, en fait, est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que c'est vraiment qui je suis, moi, maintenant? Et là, ben, tu as le choix. Tu peux te forcer à rester loyal, à continuer à respecter des règles qui ne te correspondent pas. Et en fait, ça revient à te mentir à toi-même et aussi à mentir aux autres. Et ce mensonge, est-ce que c'est encore de la loyauté? Est-ce que c'est pas une forme de trahison aussi? Vis-à-vis de toi-même, pour ne pas te respecter, pour ne pas suivre ce qui est vrai et authentique en toi, et aussi une forme de trahison vis-à-vis des autres aussi, même si ça contribue à maintenir la cohésion du groupe, du système. Parce qu'après tout, un contrat à durée indéterminée dans le milieu professionnel, un contrat de mariage, ça n'est pas forcément des contrats à vie. Un contrat, il est signé à un moment donné et il peut évoluer dans le temps, il peut être rompu. Ou alors on peut choisir d'en adapter certaines règles. Et effectivement, ça demande un ajustement de part et d'autre. Et rompre un contrat, c'est pas forcément être déloyal et c'est pas forcément une trahison. Ni pour toi, ni pour l'autre. Ou alors, j'aime bien cette phrase de Claire Marin qui dit que c'est une trahison nécessaire qu'il faut traverser et dépasser pour s'affirmer. Ça revient un peu à l'image que je prenais tout à l'heure de comme si on changeait de monde et qu'on mettait une frontière. Ben, voilà, on passe une étape, on passe à une autre façon de voir les choses, à d'autres choix. Et oui, il peut y avoir un fil à passer pour se positionner et venir s'ancrer dans ce qui est vraiment le plus juste pour soi. Et c'est dans ce sens que ce mot déloyauté, d'une certaine manière, j'y vois parfois le potentiel de ta pleine souveraineté. C'est cet endroit où tu peux venir réinterroger chacun de tes engagements, chacun de tes choix, pour déterminer s'ils te correspondent toujours et peut-être poser de nouveaux choix. En fait, je trouve que c'est une démarche d'une très très grande honnêteté, pour toi et pour l'autre. Il me semble que la première déloyauté, c'est d'abord et avant tout d'être fidèle à toi-même, d'être loyal à toi-même et de t'engager pour toi, parce que personne ne le fera à ta place. Et ça fonctionne, y compris quand ça implique de rompre, évidemment, avec certaines croyances, avec certaines pratiques, de s'autoriser à faire des choses que peut-être les autres autour de toi ne s'autorisent pas, et y compris jusqu'à rompre avec certaines de ces personnes si vraiment tu sens que ça te tire trop en arrière et que ce n'est pas possible de t'assumer et de vivre pleinement ta vie à partir de qui tu es. Alors oui, évidemment, l'extérieur peut se sentir déstabilisé. C'est normal. Il peut le prendre mal. J'ai envie de dire, ça lui appartient. Et parfois, il en faut très peu, tant les habitudes, les règles sont vraiment bien ancrées. Alors pourquoi est-ce qu'on irait les remettre en cause? C'est qui ce vilain petit canard là qui sort du rang et qui se fait remarquer et qui choisit sa propre voie? L'extérieur, la famille, peut se faire un... parfois peut agir vraiment parce qu'elle se sent profondément blessée, mais parfois elle peut aussi se faire un malin plaisir à remuer le couteau dans la plaie et à pointer ta déloyauté, ton infidélité, pour te culpabiliser et te faire rentrer dans le rang. Et là encore, c'est à toi de choisir comment est-ce que tu as envie d'avancer. La loyauté, je la vois comme un choix clairement assumé, un choix conscient, et certainement pas comme une prison, un enfermement. Et si tu as la sensation que c'est le cas, que c'est quelque chose qui t'enferme et qui t'empêche d'évoluer, eh bien, je pense que tu as vraiment tout à gagner à venir réinterroger ce choix. Et oui, pour finir, est-ce qu'il y a un prix à payer à être déloyal? Eh bien, j'ai envie de retourner la question en fait. Quel est le prix à payer à être loyal à tout prix, justement, et à te conformer, à rester dans quelque chose qui ne te convient plus? Et qui potentiellement ne convient pas aux autres non plus, qui ne trouve peut-être pas la solution pour sortir de tout ce qui joue dans le système. C'est là que je reviens à cette notion de souveraineté qui, je pense, est vraiment centrale. Je te souhaite une très bonne exploration de tout ce que cet épisode aura pu faire remonter en toi, de toute tes interrogations, tes souvenirs et peut-être de tes envies d'avancer autrement à partir d'aujourd'hui. Tu as aimé cet épisode et tu veux être à l'écoute des prochains? Alors, je t'invite à liker et à t'abonner à Être Soi au Féminin sur ta plateforme préférée. Pour en savoir plus sur moi, mon parcours et mes propositions, je te donne l'adresse de mon site internet dans le descriptif de l'épisode. À très bientôt pour un prochain épisode d'Être Soi au Féminin.